CQFD.
Malévo, ça n'est pas une maison de fous. Malévo, c'est un hôpital psychiatrique situé sur les hauts de Montée en Valais. C'est là que vous nous emmenez ce matin, Stéphane Delétro.
Oui, chez les fous, hein, comme pensent encore certains Valaisans lorsqu'on parle de Malévo. Bah, soit dit en passant, les Valaisans ne sont pas les seuls. Hein. Dites Cerie un Vaudois ou Marsens un Fribourgeois, bah, la réaction sera similaire. Les hôpitaux psychiatriques ont toujours eu mauvaise réputation, mauvaise image. La souffrance psychique fait peur, la folie fait peur. On ne sait pas, hein, pour peu qu'elle serait contagieuse.
Alors vous nous emmenez donc aujourd'hui à la découverte du métier de psychiatre et de l'hôpital psychiatrique de Malévo.
Oui, un hôpital qui reçoit 1500 patients par année. 4 à 5 patients sur 10 viennent pour un épisode dépressif sévère, un moment de crise existentielle. Et la moitié sont hospitalisés pour risque de suicide. Un tiers viennent pour la première fois, durée moyenne de séjour environ 3 semaines. On vient plutôt en urgence, 90% des admissions ont lieu dans les 6 à 10 heures qui suivent la demande d'hospitalisation, une sur deux la nuit et le week-end. Les patients sont hospitalisés dans l'un des pavillons répartis dans un très beau parc de 5 hectares, un parc dans lequel on retrouve le médecin-chef de Malévo, le docteur Georges Klein.
L'immense majorité des patients sont envoyés par des médecins. Donc les personnes sont vues par un médecin généraliste, un médecin de premier recours ou un médecin psychiatre.
Voilà, ah, c'est
le jardinier qui passe avec son tracteur. Alors le jardinier joue un rôle très très important parce que c'est lui qui s'occupe de l'entretien de tout le parc et tout le jardin. Et dont beaucoup de patients parlent, beaucoup de familles aussi parlent, et en disant tout le bien que ça leur fait finalement, de pouvoir sortir des unités, sortir des pavillons, passer du temps dans le parc, soit pour être seul, soit pour être avec leurs proches, ou pour se promener simplement, et à quel point l'espace du parc est un lieu thérapeutique aussi. Et ça, les patients en témoignent très clairement, souvent.
On est bien tombé aujourd'hui, on dirait une belle journée de printemps, comme ça, quand on parlait de ce côté un peu sinistre, là, ça n'est pas le cas, il y a du soleil, c'est beau. Hein, c'est...
Oui, alors ça contribue aux soins, et ça a pour conséquence notamment que quand un patient quitte le pavillon, ou se promène dans le parc, ou s'échappe, ou échappe à la surveillance des infirmiers, puis qu'un patient fugue et se balade dans le parc, par exemple, s'il n'y a pas droit, on n'estime pas qu'il est forcément parti de l'hôpital, il est simplement dans le lieu de soins qui est l'ensemble de l'hôpital et qui comprend le parc. Donc tant qu'il est dans le parc, il est toujours hospitalisé et à l'hôpital. Vous posez la question des fugues, oui. Alors ça, c'est une classique en psychiatrie, mais c'est pas propre à la psychiatrie. On fugue aussi des hôtels et des autres établissements de soins quand l'hôpital général. Mais en psychiatrie, c'est vrai que ça pose plus de problèmes. C'est certainement plus fréquent également. Ce qu'on sait, c'est que qu'il soit ouvert ou fermé, on en fugue tout autant. Vraisemblablement, il y a même des études qui montreraient qu'on fugue même plus souvent d'un hôpital quand il est fermé que quand il est ouvert. Parce que quand il est ouvert, c'est pas tellement un enjeu de foutre le cran, de partir. Par contre, quand il est fermé, alors ça devient beaucoup plus intéressant de braver, de prendre le risque de partir. Il y a des études qui montrent aussi que l'extraordinaire majorité des fugues ont pour motif des raisons très banales. C'est payer ses factures, voir sa copine, donner à manger au chien, voir son chat, trouver son enfant à la sortie de l'école. Enfin, des choses extrêmement normales de la vie de tous les jours. Et plus de 99% des fugues ont ça pour motif. Nullement d'aller mettre fin à ses jours ou de faire du mal à quelqu'un d'autre.
Je vois un grand sourire. Vous avez fugué à plusieurs reprises ?
Oui, plusieurs fois, oui, oui. Je voulais voir mes anciens collègues parce que j'étais artificier à Ouvrona. Alors je voulais les voir au sommet du télésiège, les nouveaux machinistes et tout et tout. Et je les ai vus.
Et après vous reveniez.
Après je redescends en télésiège.
Vous avez l'habitude de prendre le taxi.
Taxi c'est depuis la gare de Montée. Ouais. Oh des fois je prends le train quand même. Hein.
Oui. Oui, c'est ouvert. Enfin, les unités sont ouvertes. Il n'y a pas de chambre d'isolement, de moyens de contention mécaniques qui permettraient d'attacher une personne, par exemple, sur un lit. Ça, on ne recourt pas à ces moyens-là depuis plusieurs décennies maintenant. Ce qui ne veut pas dire que qu'il n'arrive pas qu'on ait à maintenir une personne à plusieurs et lui administrer un traitement contre son gré. C'est des choses qui arrivent, donc ça peut arriver qu'on doive le faire quand on a vraiment la conviction qu'une personne est à un moment donné dans une situation d'urgence, qu'on doive agir dans la minute ou dans les minutes qui suivent pour préserver la vie de la personne. Ou celle d'autrui quand elle est extrêmement symptomatique, très malade, extrêmement désorganisée et capable de présenter un danger pour elle ou pour les autres. Donc ça arrive qu'on recourt à ce moyen de contention, hein, de contrainte physique. C'est heureusement rare, mais c'est le seul qu'on utilise.
Georges Klein, maintenant on va se rendre dans un pavillon, lequel ?
Donc c'est un pavillon qui s'appelle le Muguet, dans lequel le médecin des admissions aujourd'hui a reçu plusieurs appels pour plusieurs hospitalisations. Il y a 4-5 admissions aujourd'hui, donc pour faire un peu le point avec elle, des admissions du jour, pour parler de celles qu'elle a vues et celles qui sont à venir aussi.
J'ai une situation, il y a une demande d'hospitalisation. C'est un patient qui est connu pour un trouble de la personnalité, un trouble dépressif récurrent. Et qui a un suivi auprès de la doctoresse, mais ça fait plusieurs jours, le patient ne se présente pas au rendez-vous, mais envoie des mails ainsi que des courriers à la doctoresse disant qu'il est pas du tout bien, qu'il est très fatigué, qu'il a besoin d'aide. Alors la doctoresse s'inquiète, elle essaie quand même d'appeler le patient, mais au téléphone, il a l'air plutôt assez bien, lui disant que non, ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais le lendemain, elle reçoit encore ces mêmes courriers. Et en même temps, il y a le curateur qui a appelé la doctoresse pour lui dire qu'il envoie également au curateur des messages de mort, parce qu'il y a un problème en tout cas.
Il dit qu'il veut faire ses jours.
Non, c'est plus pour menacer le curateur, parce qu'apparemment, ils ont un conflit. Il y a le curateur, en fait, le patient qui veut vivre dans un, comment on appelle, des vannes, je sais pas comment.
Un mobilhome, en fait.
Oui,
d'accord.
Mobilhome. Alors, le curateur ne veut pas, il demande à ce qu'il cherche un studio, et puis ça crée des conflits entre eux. Et donc, le patient menace le curateur, oui.
Donc, le médecin qui est psychiatre s'inquiète, oui. Il demande une hospitalisation ou demande à ce qu'on organise avec lui, oui. Avec le psychiatre, une hospitalisation. Oui. Et le patient est assez hésitant.
Oui, et puis en même temps, elle n'a pas encore vu le patient. Alors moi, je l'ai suggéré de voir d'abord le patient pour demain et puis de l'évaluer, de voir si vraiment il y a besoin de qu'il soit hospitalisé ou pas du tout.
Et après, puis nous, on accepte de toute façon.
Si elle trouve que c'est nécessaire.
Voilà. Contrairement à la chirurgie, par exemple, où c'est le plus expérimenté, le plus galonné, le plus voyant, finalement, du staff médical qui va se retrouver à opérer, à faire les gestes, à faire les choses comme ça. Ce qui est logique, en psychiatrie, c'est pas forcément le directeur médical ou le médecin-chef de service ou de département, que sais-je, qui va au quotidien s'occuper et puis opérer chaque patient. Au contraire, en psychiatrie, c'est souvent en milieu hospitalier en tout cas, dans les institutions publiques également, les médecins assistants finalement qui sont en première ligne et qui s'occupent souvent des patients les plus malades, les plus souffrants. Alors ils sont pas seuls pour le faire, mais c'est souvent les moins galonnés, les plus jeunes dans la profession. Et c'est ce qui surprend finalement beaucoup et ce qui paraît peut-être a priori paradoxal, mais paradoxe qui s'estompe si on pense que finalement ce qui est opérant dans le soin, ce n'est pas une technique particulière, c'est pas un geste ou un geste appris et répété mille et une fois. C'est beaucoup plus l'attention, l'intérêt, la motivation, l'enthousiasme aussi qu'un médecin peut avoir pour une personne, un patient en particulier, qui va être opérant et qui aura des effets thérapeutiques clairs. Alors c'est clair que ce médecin jeune, il n'est pas seul. Il y a une équipe de soins, il y a des infirmiers et d'autres professions qui jouent un rôle prépondérant. Puis surtout, ce médecin, il est supervisé, il a un chef de clinique, il y a un médecin chef adjoint, il y a un médecin chef. Enfin, il est dans un environnement extrêmement structuré. Et le but, finalement, des médecins cadres, en fait, c'est d'offrir justement un environnement de travail qui permet aux gens d'avoir une activité thérapeutique au lit du malade pour le patient. Et puis alors pour d'autres situations, vous rappelez le médecin généraliste là, qui a appelé. Et puis moi, je vous propose d'appeler aussi le chef de clinique de l'unité qui le connaît bien. pour...
Et peut-être la psychiatre aussi.
Et la psychiatre, oui, pour la tenir au courant. Et puis comme ça, on peut préparer, on peut l'accueillir dans les meilleures circonstances possibles. Donc là, on passe dans une unité. Je crois que je tombe sur l'équipe de soins. Il y a l'ICUS, l'ergo. Là, il y a une médecin assistante, la chef de clinique. Vous allez voir une patiente.
Oui.
Avec l'infirmière.
Oui.
D'accord.
Oui, voilà.
De saut de pas. Voilà. Le gros de la prise en charge, le gros du traitement psychiatrique hospitalier, c'est les infirmiers qui le font. C'est les infirmiers qui sont au quotidien et qui s'occupent le plus des patients, et en particulier quand ils sont le plus gravement malades. C'est pas les docteurs, c'est les infirmiers. Je pense que c'est important de dire ça, et puis peut-être voir avec un infirmier ce qu'il en pense.
Olivier, vous êtes
l'infirmier chef de l'unité de soins ici de la Forêt. Donc effectivement, je voulais effectivement appuyer ce que disait le docteur Klein. On a un travail effectivement en collaboration avec les médecins, ce qui est assez, je dirais, rare dans toutes les autres unités de soins, que ça soit hospitalière, somatique, et ce qui nous permet de faire vraiment notre travail de concert, quoi.
Comment est-ce qu'on choisit la psychiatrie lorsqu'on se dit « tiens, je vais faire infirmier », mais pourquoi la psychiatrie ?
Alors moi, personnellement, j'ai choisi la psychiatrie pour les raisons que je viens de vous détailler, vraiment pour la collaboration justement aussi avec le secteur médical, hein, qui est vraiment différent, encore une fois, que ce soit en chirurgie ou dans les soins somatiques. Je pense qu'on est mieux reconnu, en tout cas, dans les soins qu'en soins somatiques, en tout cas. Et c'est en partie pour ça que j'ai choisi cette profession.
Et la relation au patient, elle est un peu différente aussi ?
Alors disons que nous, c'est notre outil au quotidien, hein, finalement. On est là pour rendre le patient acteur de ses soins. Donc pour ça, on doit mettre en place une relation de confiance. Notre travail est uniquement basé là-dessus. Je dirais, on n'élimine pas tout ce qui est soins somatiques, bien sûr, mais c'est vraiment basé là-dessus. Et puis, c'est un réel plaisir d'être en contact comme ça et d'avoir le temps de le faire par rapport aux soins généraux. C'est peut-être plus difficile par rapport aux soins techniques à réaliser chaque jour.
Oui, donc on va rencontrer une chef de clinique. Donc il y a un chef de clinique par unité de soins. Et dans cette unité, c'est doctoresse Sriti, qui est le chef de clinique, qui supervise 3 médecins assistants, donc 3 médecins en formation post-graduée en vue d'obtenir le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Elle m'a appelé tout à l'heure pour discuter du traitement pharmacologique, en fait, d'une patiente qui est hospitalisée, qui a un traitement médicamenteux très compliqué, parce qu'il y a de multiples pathologies physiques et psychiatriques qui s'enchevêtrent. C'est une dame qui est très malade aussi sur le plan orthopédique, parce qu'elle s'est blessée sur le plan à la jambe, multiples, elle a plusieurs fractures. Elle est en grande partie alitée actuellement à cause de ça encore.
Et puis là donc, on est un peu en plein rechute psychotique chez elle.
Ouais, c'est pour ça. Rechute sur le plan de sa maladie psychiatrique.
Sur le plan de la maladie psychiatrique.
Alors qu'elle allait mieux, elle s'était améliorée, elle était devenue parfaitement stable. Et tout d'un coup.
Depuis la fin de la semaine passée, ça va moins bien, elle dort pas, elle est très instable.
Donc c'est une patiente très compliquée, dans le sens que c'est une dame qui a une pathologie psychiatrique extrêmement sévère, hein, une forme, disons, grave de schizophrénie, compliquée par différentes choses, qui s'est blessée aussi, alors. Physiquement, lourdement, qui a dû subir pas mal d'interventions chirurgicales de nature orthopédique.
Moi, j'avais deux questions pour toi. Est-ce qu'on la réadresse à l'hôpital du Chablais? Ouais. Parce que là, c'est impossible d'immobiliser, puis c'est beaucoup plus haut. Hein. C'est plutôt là. Mmh. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est la médication. Ouais. Alors, moi, début de semaine, on a arrêté le Rivotril, le Temesta, et puis on a mis du Valium. C'était un peu sa demande, puis on a accédé avec du Valium en réserve. Mais c'est insuffisant.
Et si on commence déjà peut-être dans l'ordre avec l'antipsychotique, là je vois qu'elle a eu un dépôt le 4 mars.
Oui, hein. Tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, la prochaine c'est le 18.
On voit une liste de médicaments assez impressionnante. Oui. La médication, c'est quelque chose qui, en règle générale, joue un rôle très important dans ces épisodes de crise notamment.
Oui, alors oui, les médicaments, alors, largement décriés globalement, je pense que souvent... À juste titre, globalement aussi. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'à l'hôpital, quand on vient à l'hôpital, c'est qu'on est très malade. Il n'est pas rare, et là, c'est un cas assez extrême, mais c'est une dame qui a de multiples pathologies et qui, alors, pour avoir éprouvé à nombreuses reprises et différentes manières d'agir avec elle et de faire avec elle, on sait que sans médicaments, ça ne va pas. Et d'ailleurs, elle le reconnaît parce qu'elle ne rechigne pas du tout. Elle accepte, elle demande même les médicaments, elle s'en rend bien compte. Et ça fait qu'elle a une liste de 10, 15 médicaments, je pense, à peu près en tout, entre le diabète, le syndrome métabolique, l'antidouleur, le lithium, un neuroleptique, un truc pour l'estomac. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Mais on n'y coupe pas, j'entends. Elle est très malade. Si vous allez dans n'importe quel service de médecine interne ou de soins intensifs, vous avez des listes, je pense, des fois encore bien plus impressionnantes, quoi. Mais ça suppose pour nous des connaissances de médecine générale, de médecine interne, un contact étroit avec des collègues de médecine interne. On a un médecin généraliste qui vient toutes les semaines. Nous-mêmes, on a aussi pas mal de connaissances. On est d'abord médecin, on est psychiatre. Des consultants qui viennent sur place, on travaille avec l'hôpital du Chablais juste à côté, que ce soit les urgences, les soins intensifs, l'orthopédie ou les... Enfin, ou la néphro. Enfin, j'entends, tout dépend du cas, mais effectivement... Le nombre de cas où plusieurs spécialités médicales s'enchevêtrent est extrêmement fréquent et de plus en plus fréquent, en fait.
Moi, je pense qu'il faut remettre de la cutare.
On met en pause l'Aldol.
Oui.
Et le Valium.
Oui.
Et puis on remet la cutare Aldol Valium.
Voilà. Oui.
Ok.
Oui.
D'accord.
Nous sommes au cœur de l'hôpital de Malévaux ce matin pour y découvrir en particulier le métier de psychiatre. Nous y revenons dans un instant. Merci d'avoir choisi la première. CQFD à la découverte aujourd'hui de l'hôpital psychiatrique de Malévaux sur les Hauts-de-Montée, Stéphane Delétro.
Oui, Malévaux où j'ai croisé Walter, attablé à la terrasse de la cafétéria de Malévaux. Hospitalisé en début d'année, Walter revient deux fois par semaine pour boire un café et consulter les petites annonces du quotidien.
J'étais du 8 janvier au 17 février. Et puis maintenant, je suis de nouveau en système normal, chômage, à la recherche d'un emploi. Comme je suis grutier, alors je cherche dans ce domaine-là. Et je viens le mardi pour voir le nouvel liste qui a les annonces dedans et le jeudi qui est dans le 24 heures. Comme je suis assez seul à la maison, alors ça fait du bien de sortir de la maison, de sortir un peu faire un tour et puis discuter un peu avec d'autres.
Et ce passage ici, à Malévaux, il vous a fait du bien ?
Oui, j'étais moi-même surpris de le fait de ma maladie. Je ne pensais pas malade au début, puis après, ma foi, il me donnait un nom à une pathologie, et puis bipolaire, paranoïaque, puis voilà quoi. J'étais soigné, j'ai des médicaments, donc je prends les médicaments encore maintenant. Sinon, c'est pas trop méchant quoi. Je veux dire, je suis un petit malade.
Mais vous sentez la différence avant et maintenant ?
Ah oui, ça, c'est assez impressionnant. Je vivais une vie avant que j'étais un peu... Je croyais qu'on chantait pour moi, qu'on faisait des... J'étais vraiment venu paranoïaque avec l'anglais. Je me suis mis à apprendre l'anglais en vitesse à la maison. Et puis, je pensais qu'à cause de Facebook, j'ai développé une maladie. Et puis ça m'a perturbé un moment, quoi. J'avais fui la Suisse et après je me suis fait rattraper par la police. Alors après, ma foi, j'ai appris que j'étais malade, quoi. Je me sentais pas malade du tout avant.
Quand on parle de traitement, c'est un ensemble d'approches thérapeutiques par de nombreuses personnes de professions différentes. On a vu, il y a des médecins en formation, formés. Il y a des infirmiers, des psychomotriciens, ergothérapeutes. Et en fait, le traitement résulte de l'intervention de toutes ces professions, de toutes ces personnes, auprès d'une personne, d'un patient en particulier. Alors, avec quels outils ? Alors, l'outil est principalement relationnel. Alors, ça, c'est un peu bidon de dire quelque chose comme ça, mais je crois qu'il faut être très clair. À partir du moment où on s'intéresse à une personne, on prend en compte ce dont elle souffre, ce dont elle se plaint, qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'elle veut, et qu'on peut diagnostiquer... une maladie, s'il y en a une, ou un trouble, beaucoup de patients sont déjà énormément soulagés, et ça fait déjà partie du traitement, de prendre en compte ces aspects-là de la personne. Et que ce soit fait par le médecin, par l'infirmier, auprès d'une psychomotricienne, d'un ergothérapeute, en fait, finalement, c'est ça le cœur de notre métier. Après, évidemment, on diagnostique des troubles, on diagnostique des maladies, il y a une partie biologique, médicamenteuse en particulier, qui est une partie du traitement, mais qui est très importante, et qui tire d'affaire bon nombre de gens. Mais le cœur de l'activité, quelle que soit la profession, c'est vraiment l'intérêt qu'on porte à la personne. En lui-même, cet intérêt-là est déjà à des vertus thérapeutiques en soi. On voit très souvent des patients, par exemple, c'est très intéressant de voir, on nous annonce très décompensé, très agressif, menaçant, dangereux, et que sais-je, arrivé des urgences avec la police et autres. Et ces personnes-là, il est extrêmement fréquent, ils arrivent à l'hôpital, ils sont, on les prend en compte, on les accueille. Bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Enfin, avec l'étiquette et l'intérêt médecin, soignant, infirmier ou autre, rien que ça. 9 fois sur 10, la personne est déjà apaisée, rassurée, et la question de l'agressivité, de la violence et des symptômes s'estompe ou deviennent complètement secondaires.
Voilà, donc on est dans la chapelle de Malévaux, et c'est une sainte, sainte comment ?
Sainte Dipna, qui était une princesse irlandaise du 8e siècle. Et en fait, cette sainte Dipna a une histoire extraordinaire. C'est une princesse qui perd sa mère, la reine, et le roi, inconsolable, se fait convaincre par ses proches conseillers de, finalement, pour remplacer la reine, épouser sa fille, vu qu'elle était si jeune, si belle, et tellement ressemblante à sa propre mère, que finalement, il propose de proposer à sa fille le mariage. Ce qu'elle refuse, évidemment, à multiples reprises, malgré les insistances de son père, le roi, et finalement, devant l'insistance croissante, elle quitte l'Irlande pour se réfugier en Belgique. Et l'histoire raconte, c'est une légende en fait, hein, l'histoire raconte qu'elle y est retrouvée par son père quelques années plus tard, qui, la voyant, réitère son offre de mariage, qu'elle refuse à nouveau, et à ce moment-là, le roi d'Irlande la condamne à mort devant le refus de tous les bourreaux de décapiter sa propre fille. Il s'en charge lui-même, en fait. Hein. Et c'est comme ça que, des années plus tard, elle a été canonisée. C'est devenue sainte Dipna, patronne des malades psychiques, en fait. Hein. Et c'est sur ce lieu, c'est ce que raconte la légende, qu'a été fondée ensuite la longue tradition du placement familial pour les personnes malades psychiques. Et d'où la sainte Dipna, patronne des malades psychiques. Qui est faite, c'est une des saintes parmi d'autres qui a été décapitée. Il y a beaucoup d'autres saints qui ont été décapités, Saint Valentin, Saint Denis, plein d'autres. C'est les saints céphalophores, hein, qui. Alors elle en fait partie, mais c'est vrai que pour une sainte qui, elle a perdu la tête, quoi. J'entends, c'est ce qui est un peu. C'est pas la seule, hein, il y a beaucoup d'autres, mais elle en particulier. Alors la chapelle de Malévaux la représente, sainte Dipna, avec Saint Gébernicus, qui est le prêtre qui l'avait aidé dans sa fuite d'Irlande en Belgique.
C'est une belle histoire, cette histoire de la sainte patronne. Pour le psychiatre que vous êtes, les mots, les symboles, la parole, c'est vraiment un fondamental de votre métier ?
Oui, on travaille beaucoup avec la parole. On l'use parfois trop, je pense, mais c'est vrai que les mots ont beaucoup d'importance. D'abord, ce que disent les patients, ce que disent les gens, ce que disent les personnes, et puis ce que nous pouvons leur dire, sans penser que ce que nous pouvons leur dire change grand-chose. C'est pas rare de voir des gens qui vont mieux sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Puis des fois, ils vont moins bien, on sait pas non plus pourquoi. Mais pour revenir à la question des mots, oui, le verbe est très très important. Mais surtout, je dirais, pas tellement ce qu'on dit, mais ce que les gens nous disent compte. Beaucoup de gens, quand ils vont justement pas bien, au plus mal, ils peuvent justement pas dire. Et c'est une grande violence de leur dire, dites-nous ce qui va pas, ou dites-nous. Enfin, c'est à nous de le déchiffrer, de le décoder, de le comprendre à travers des gestes ou des. Enfin, plein de manières, mais c'est les patients qui m'ont appris ça, j'ai pas appris ça dans les livres, qui disent, mais vous vous rendez pas compte, quand on va pas bien, quand on va au plus mal, puis qu'on nous dit, dites-nous ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut, ce qui va pas, etc., on peut justement pas le dire. Et c'est ce qui est justement difficile dans notre métier, c'est de rentrer en relation malgré cette difficulté. Le gros de l'activité d'un hôpital psychiatrique contemporain, c'est de l'urgence, en fait. Et quand je dis l'urgence, c'est-à-dire il ne se passe que quelques heures entre la demande d'hospitalisation et l'hospitalisation réelle. 80% des admissions ont lieu dans les 12 heures qui suivent la demande d'hospitalisation. Et on trouve toujours de la place. On peut pas refuser, on est comme un service d'urgence d'un hôpital somatique. On peut pas, on a jamais refusé quelqu'un, jamais. C'est pas possible. On n'est pas un établissement privé qui peut choisir les bons, les mauvais cas. On a une mission de santé publique, on prend tout le monde. On a toujours eu de la place et on est tout le temps occupé entre 90 et 100%.
On imagine qu'on se trouve là, généralement dans une situation de crise, avec un risque que la personne puisse attenter à ses jours, qui fait qu'on va arriver à un placement. C'est vrai pour la plupart des cas?
Alors, il y a plusieurs Voilà, plusieurs questions. La question de attenter à ses jours, vous dites, oui. Alors, c'est clair que c'est un motif d'hospitalisation extrêmement fréquent. 60% des gens, des personnes qui sont hospitalisées le sont parce que elles-mêmes ou leurs proches ou le médecin qui l'envoie estiment qu'il y a un risque suicidaire. C'est-à-dire que la question de la protection de soi-même, la question du suicide, elle est quotidienne, inhérente, elle obsède en permanence les équipes infirmières et les médecins qui s'occupent des patients, dans le sens que c'est la raison principale finalement d'hospitalisation. Les gens sont hospitalisés parce qu'il y a cette crainte, justifiée ou non, mais enfin subjectivement elle est ressentie, et c'est un challenge extrêmement important pour les équipes de soins de veiller sur les gens dans les meilleures conditions possibles. C'est à peu près 60% des gens viennent avec soit après une tentative de suicide, soit parce que la crainte, le risque de passage à l'acte est évalué. C'est toujours une appréciation subjective, mais évaluée comme important. Donc c'est un souci permanent.
Et il arrive qu'il y ait un passage à l'acte, une tentative ici à Malévo?
Oui, alors ça arrive, oui. Ça arrive malheureusement que les personnes tentent de mettre fin à leur jour à l'hôpital psychiatrique. Alors c'est pas, ça aussi c'est quelque chose qui arrive dans... C'est malheureusement universel dans le sens que ça arrive dans tous les hôpitaux psychiatriques, effectivement. Soit des tentatives, ou alors des tentatives qui malheureusement aboutissent. Heureusement c'est rare, c'est pas exceptionnel, mais c'est rare. Qu'une personne arrive finalement à mettre fin à ses jours malgré la surveillance qu'on peut mettre autour de la personne, des surveillances, des visites, de tous les soins, des traitements qu'on peut donner. Quoi. On sait très bien que dans tous les hôpitaux psychiatriques, même dans des conditions de soins et de surveillance optimales, le suicide, même à l'hôpital psychiatrique, peut survenir. C'est toujours un énorme choc, enfin c'est extrêmement traumatisant. Alors, pour les proches d'abord, hein, pour les personnes proches, la famille, les gens qui sont dans l'entourage immédiat, évidemment, qui ne s'y attendent généralement pas ou qui s'imaginent même pas que ça puisse arriver à l'hôpital psychiatrique, pensant que voilà, mon proche est à l'hôpital, donc rien va lui arriver. Et puis en fait, on peut aussi mourir aux soins intensifs des complications d'une coronaropathie, finalement, comme ça arrive tous les jours dans tous les hôpitaux aussi. Le suicide aussi a peu arrivé, les gens sont très surpris, c'est un choc énorme pour les proches et pour les soignants, médecins et infirmiers, c'est extrêmement difficile. On voit des carrières, on voit des infirmiers, des médecins qui arrêtent leur activité de médecin ou d'infirmière après un suicide. On sait que un suicide en milieu hospitalier psychiatrique malheureusement arrive inéluctablement. Il a été mesuré, le taux, enfin la fréquence à laquelle un suicide hospitalier en psychiatrie survient a été mesuré par de nombreuses études internationales et on est entre 1 et 4 cas pour 1000 admissions. Et en Suisse, d'après une étude qui a été faite en 2005, on est autour de 2 suicides pour 1000 hospitalisations. Donc c'est effectivement rare, mais pas exceptionnel.
Mais par rapport aux chiffres que vous m'avez donné tout à l'heure, ça veut dire que, grosso modo, chaque année, il y a deux suicides ici à Malévo?
Alors, c'est une moyenne. Heureusement, il y a des années où il n'y a pas, et d'autres années où il y en a plus que deux. Mais en moyenne, on est à 1,8, 1,9 à peu près.
Stéphane Delétrou, on retourne une dernière fois à l'hôpital psychiatrique de Malévo pour découvrir une autre de ses particularités.
Ces espaces dédiés à la culture, espaces placés sous la responsabilité du sociologue Gabriel Binder.
Alors il y a un truc qui est très drôle, cet hôpital est ouvert et puis j'ai toujours des clés à la main. Je suis toujours en train de fermer des espaces. Parce qu'en fait, comme l'hôpital est ouvert et puis qu'il est énorme, tous les espaces vides, il faut qu'ils soient fermés, sinon les patients, ils se perdent, on ne sait plus où les retrouver. Et... Gabriel? Ouais. Mais je suis là.
Gabriel Binder, ici, vous avez à votre disposition plusieurs espaces. Pouvez-nous les résumer?
Alors, nous avions une galerie. Nous avons une résidence pour les artistes qui peuvent recevoir des ateliers d'artistes en arts visuels ou des créatifs et du logement pour les artistes. Et puis ici, nous avons l'atelier théâtre du RACO, qui lui permet, dans une ouverture de 12 sur 16, hein, un espace de création, d'accord, et aussi, dans sa version aménagée, hein, un espace de représentation qui peut recevoir entre 50 et 70 spectateurs, ça dépend comment on l'aménage.
l'idée thérapeutique là derrière, c'est que la qualité de l'espace, la qualité de l'espace qui vous entoure, elle est très importante. Si vous êtes hospitalisé dans un endroit indéterminé, à l'abandon, qui diffuse de l'ennui ou de la nostalgie, comment n'être pas soi-même contaminé par cet espace? C'est pour ça que le professeur Éric Bonvin, qui était directeur, a dit il faut absolument réaffecter ces espaces. Et la galerie est un des trois espaces qui ont été réaffectés.
Et l'idée aussi, c'est de faire finalement de cette galerie, j'allais dire, une galerie comme une autre, faire en sorte que le public vienne ici pour voir une exposition, pour un événement particulier, comme il irait dans une autre galerie en ville.
Alors, pour moi, c'était une galerie comme une autre, dans mon idée, mais c'est devenu une galerie comme une autre lorsque des artistes viennent me voir et disent « on aimerait exposer là ». Et puis j'ai dit « mais vous savez que c'est à l'hôpital psychiatrique ?»« Ah, mais évidemment, mais c'est là qu'on veut passer une magnifique galerie ». Donc c'est devenu une galerie dans le champ des galeries valaisannes qui sont pas très nombreuses et qui offrent des très bonnes conditions aux artistes. Ce bâtiment était vide. On l'a meublé de briques et de brocs. Et puis, on peut offrir à des artistes des résidences. Et c'est un des très rares lieux où on peut recevoir en résidence, par exemple, une compagnie. Alors, on a eu, je crois, en 2 ans, on a eu, je pense, 20 ou 25 compagnies différentes. Pas mal de danse. Ou alors des compagnies de théâtre contemporain. Alors, la grande originalité, c'est qu'on offre une résidence, mais on n'attend pas forcément en retour une création, ou pas forcément chez nous. Alors, avec chaque compagnie, on négocie, mais pourquoi vous voulez venir ici? Alors, par exemple, Mathieu Berthollet, lui, propose, pendant un mois, tous les matins, aux patients qu'il souhaite, de venir faire le yoga avec ses comédiens, danseurs, ou d'assister aux répétitions l'après-midi, qui sont publiques. Puis, à la fin, il présente Work in Progress, il présente son travail.
Ça fait 3 semaines que je suis là et je vais m'en aller aujourd'hui même. Donc, très contente de partir. J'ai eu un passage pas des plus faciles, mais à présent, tout va bien.
Et ces 3 semaines, ça vous a été précieux, ça vous a aidé à vous reposer, à vous reconstruire?
Exactement, à me reposer et puis à méditer sur moi, sur ma famille et à reprendre pied. Exactement. Et maintenant, je suis prête à reprendre le cours de ma vie, vu que j'ai un petit garçon encore. Donc, on se réjouit de se retrouver.
Vous évoquiez votre petit garçon, c'est ce qui vous a manqué le plus ici pour...
C'est ce qui lui a manqué le plus, c'est de le voir souffrir, m'a aussi culpabilisé par rapport à ça. Mais on se sent impuissant et si on sent qu'on a besoin de repos, il faut d'abord se reposer soi-même pour prendre soin de soi, pour s'occuper des siens.
Il y aura un suivi quand même, on va pas vous lâcher là toute seule?
Non, il y aura un suivi, je vais faire les choses de la bonne manière. Alors ça, c'est pas un souci parce que j'ai pas envie de revenir dans l'immédiat.
Le métier de psychiatre au sein de l'hôpital psychiatrique de Monthey en Valais. Reportage signé Stéphane Delétro.
CQFD sur la première.